On va parler d'un des sujets de votation soumis au peuple le 14 juin prochain. Le peuple qui est appelé et les cantons appelés à se prononcer sur la révision partielle de la LRTV, la loi sur la radio et la télévision. Révision qui porte pour l'essentiel sur le mode de prélèvement de la redevance. Fini le lien avec la possession d'un appareil radio ou TV. Tout le monde va payer, mais du coup la facture, notamment pour les ménages, va sensiblement baisser. Elle va monter pour quelques entreprises aussi. Pour l'Union Suisse des Arts et Métiers qui a lancé avec succès le référendum contre ce projet, cette révision est un piège fiscal nuisible aux entreprises, susceptible d'augmenter sans limite. Alors la généralisation de la redevance qui finance ce service public médiatique est-elle vraiment un leurre? Après Doris Leuthard avant-hier qui défendait cette LRTV révisée, ce matin pour en parler, le camp d'en face, le camp des référendaires, le président de l'USAM est notre invité, Jean-François Rime, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également conseiller national UDC fribourgeois, merci d'être avec nous dans notre studio de Berne jusqu'à
8h. Merci de m'avoir invité.
Écoutez, c'est tout à fait normal, vous êtes, je le disais, le fer de lance, donc celui qui porte la voix des référendaires. Vous dites, l'USAM dit en tout cas que la généralisation de cette redevance est un piège fiscal. On vous pose la question, piège fiscal pour qui? En tout cas pas pour les ménages pour lesquels la redevance va passer de 460 à 400 francs.
Peut-être un peu moins, puisqu'il y a encore le problème de la TVA.
De la TVA, effectivement, même moins
de
400.
Qui va se poser. Mais enfin, bref. Non, je crois que le problème, c'est qu'on ne veut pas payer deux fois pour le même service. Madame Leuthard, qui est très habile politiquement, est un peu moins habile lorsqu'il s'agit de réfléchir sur les réalités économiques. On sait aujourd'hui que la situation économique pour les entreprises est très difficile. Et si chacun paye pour le service public à la maison, je ne vois pas pourquoi je payerais une deuxième fois dans l'entreprise. D'autant plus que les administrations ne payeront pas. Et je pars de l'idée qu'on a plus l'occasion d'écouter la radio, de regarder la télévision, peut-être dans certains bureaux de l'administration que dans les entreprises. Où c'est impossible. Chez moi, dans ma scierie, on ne peut pas avoir la radio, on ne peut pas, en tout cas pas avoir la télévision, parce que ce serait dangereux. Donc, avec le système actuel, on a rangé ça un peu comme des noix sur un bâton, on a fait baisser le prix pour les particuliers et on l'a fait monter pour les entreprises, mais on ne s'est surtout pas poser la question de savoir si on avait moyen de faire des économies dans le service public.
Bon, aujourd'hui, les entreprises sont déjà assujetties. Alors, à l'avenir, avec si cette LRTV passe, révisée, 75% d'entre elles, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs, trois quarts d'entre elles, donc, seront exemptées de cette taxe. C'est un argument qui se retourne un peu contre vous, non?
Vous savez, quand on veut pas donner la réalité des chiffres, on parle en pourcents. Et aujourd'hui, il faut parler en chiffres. Aujourd'hui, les entreprises payent à peu près 40 millions à l'avenir, elles paieront 200 millions. Deuxième problème, le Conseil fédéral, avec cette révision de loi, s'attribue la possibilité de modifier ces taxes à n'importe quel moment, sans même demander l'avis du Parlement.
Alors là, vous brandissez même un chiffre jusqu'à 1000 francs.
Oui,
hein.
Bon.
Comment vous l'avez, ce chiffre
de 1000 francs? Parce que si on extrapole l'évolution des coûts depuis que cette taxe a été introduite, eh bien, on pourrait se retrouver relativement rapidement à 1000 francs. Et peut-être ce que je regrette dans le débat qui est en train de se passer aujourd'hui, bien sûr, c'est que le débat déborde. Mais enfin, quand on fait ce genre d'exercice, on sait que tout le monde arrive avec ses arguments. Et il a notamment débordé sur les indemnités des administrateurs et de la direction de la radio-télévision.
À propos de débordement du débat, Jean-François Rime, est-ce qu'il n'y a pas un côté, comment je pourrais dire, un côté cheval de Troie, oui, devant ce référendum, au fond, vous attaquez cette LRTV révisée qui ne serait qu'un prétexte pour vous en prendre plus loin au statut du service public, à la SSR, etc. C'est un procès qu'on vous fait, c'est une question que je vous relaie. Est-ce que c'est pas un cheval de Troie? Parce que cette question des entreprises semble finalement assez marginale.
C'est
cheval de Troie ou pas?
160 millions, c'est pas marginal. Et pour moi, pas. Parce que c'est vrai que la situation en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin n'est pas la même. Au Tessin, le service public est beaucoup plus important, en Suisse romande aussi, et en Suisse alémanique, par contre, ils ont des capacités de travailler avec des radios publiques.
Alors ils payent beaucoup, mais ils reçoivent moins en Suisse alémanique à cause de la clé de répartition.
Oui, ça c'est clair. Mais ça fait partie de la solidarité. On a aussi la péréquation financière au niveau des cantons. Non, le problème, c'est que quand vous avez des cantons ou des villes comme Zurich, comme Bâle, vous avez beaucoup plus la possibilité d'avoir un service des entreprises privées. Et ils ont des entreprises privées qui fonctionnent, alors qu'en Suisse romande, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Moi, je connais un petit peu ce qui se passe dans les radios locales de la région, et c'est vrai que tout ont du mal à nouer les deux bouts. Oui. Alors maintenant, bon...
Elle profite aussi de la redevance, hein, les radios
dans
privées.
Dans son exercice d'équilibriste, Mme Lothard fait baisser la redevance pour les privés, pour combien de temps, j'en sais rien. Au lieu de fournir 4% du budget, sauf erreur, elle va fournir 6% de la redevance aux radios privées, aux télévisions privées. Et tout ça, j'estime que c'est pas très digne d'une conseillère fédérale qui doit pas, sur ces sujets comme ça, quand il s'agit quand même de plus d'un milliard ou d'un milliard et demi, de traiter ça de façon purement politique avec un exercice d'équilibriste. On devrait vraiment se poser la question, et c'est d'ailleurs ce que mon collègue Wasserfallen a amené dans la discussion, on devrait se poser la question du fonctionnement des besoins. Parce qu'on sait aussi...
C'est bien de ça qu'il s'agit, donc.
On sait aussi, ouais, pas les besoins financiers, les besoins de la population, des clients. Moi, je dois pas raisonner vis-à-vis de mes clients en disant, écoutez, moi, pour vivre, j'ai besoin qu'on me paye tant. Je dois répondre aux besoins de ma clientèle. Et aujourd'hui, on sait pertinemment qu'au niveau des jeunes, notamment, il n'y a pas du tout les mêmes besoins qu'au niveau des gens de mon âge.
Oui, bon, on rappelle que les ménages paieront quand même moins si cette LRTV passe, hein, même moins de 400 francs,
vous l'avez déjà dit 3 ou 4 fois.
Oui, bah, ça compte quand même pour les gens qui nous écoutent.
Mais bien sûr, ils payeront moins pendant quelques temps.
Oui, alors ça, après, allez savoir si ça va monter jusqu'à 1000 francs. En tout cas, ce chiffre n'est pas confirmé, vous l'avez, mais...
Il n'y a rien qui est confirmé.
C'est un plan sur la comète. Juste sur la question aussi de la SSR, est-ce que vous n'êtes pas là en train de le lui faire à la SSR un pur procès d'intention, parce qu'il n'est pas question d'une augmentation des moyens alloués à la SSR qui ne va pas toucher un franc de plus, mais uniquement d'une réforme du mode de prélèvement. Donc là, il y a un procès d'intention, non ?
Non, pas du tout, mais le procès d'intention, c'est même pas moi qui le fais. On a entendu dans les débats maintenant au Parlement que j'ai un collègue radical bernois qui, lui, a posé la question de fond et qui a notamment dit ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes, c'est que avant de décider d'attribuer des moyens financiers, on devrait se poser les vraies questions sur les besoins de la population et le fonctionnement. Mais moi, je n'attaque pas fondamentalement. Ce que je veux pas, c'est qu'on prenne 160 millions de plus aux entreprises dans une période qui est déjà extrêmement difficile avec le franc fort.
Jean-François Rime, sur la SSR, on pourrait penser aussi que la votation porte sur le maintien ou non de la RTV, de la radio-télévision publique, le partage du gâteau éditorial par rapport à l'Internet, etc. Je vous pose la question comme ça, de but en blanc. Est-ce que pour vous, la SSR est trop grande et trop chère? En d'autres termes, est-ce qu'il y a trop de chaînes?
Alors, moi, j'écoute que la radio suisse romande. Par contre, au niveau télévision, vivant dans une famille bilingue, on jongle entre les programmes alémaniques et les programmes romands. Mais c'est vrai.
Sur l'ensemble de la Suisse, je posais la question sur l'ensemble de la Suisse.
C'est vrai qu'il y a une quinzaine de programmes radio, sauf erreur.
17, oui.
Oui, 17. Bon, je pense que là, il y a une question qu'il faut vraiment se poser. Mais là, je suis pas le spécialiste. Moi, je vous dis, je n'attaque pas la radio-télévision en tant que telle. Je ne suis pas apte forcément à critiquer son fonctionnement. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on prenne 160 millions de plus aux entreprises qui payent déjà au niveau des propriétaires, des employés.
Et est-ce qu'il y a aussi, en dernier recours, peut-être de votre part ou de celle de l'USAM, une idée de privatiser ou en partie la SSR? Est-ce que vous allez jusque-là dans le raisonnement?
Alors, nous, on ne s'est pas posé la question à ce niveau-là, mais on souhaite vraiment qu'on se pose la question de savoir quelles sont les limites du service public, c'est vrai. Et moi, je suis convaincu que dans les 5 ans qui viennent, avec le développement des moyens électroniques, des ordinateurs, des téléphones portables, les besoins des clients, notamment des jeunes, ne seront pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Moi, je regardais relativement peu la télévision avec des programmes décalés. Aujourd'hui, il m'arrive régulièrement de regarder le téléjournal quand je me réveille au milieu de la nuit.
Si on redimensionne ou si on privatise une partie de cette SSR, est-ce qu'il n'en va pas de la cohésion nationale et de la diversité culturelle de la Suisse? Vous qui êtes très sensible du côté de l'UDC à ces thématiques, est-ce que ce n'est pas un risque à prendre?
Nous n'avons jamais mis en cause ou discuté du fait que la radio-télévision de la Suisse italienne coûte beaucoup plus cher que celle de la Suisse romande et encore beaucoup plus cher que celle de la Suisse alémanique par rapport à la population. Mais ça, c'est le système fédéraliste. Et alors, s'il y a un parti politique qui défend le fédéralisme et qui ne veut en aucun cas donner des compétences à la Confédération lorsqu'on doit les laisser aux cantons ou aux communes, c'est bien l'UDC. Et là, vous me faites un faux procès.
Non, mais je dis que si on supprime quelques chaînes ou quelques programmes, il en va aussi de la diversité culturelle et de la cohésion internationale.
Là, ça, je suis pas sûr, parce que moi, il y a en tout cas un ou deux programmes que j'ai jamais écouté. Il m'arrive d'écouter l'Espace 2, si tout à coup, ouais, je rentre en voiture à 13h et que j'ai loupé les informations à 12h30.
Vous n'êtes pas le seul auditeur, Jean-François-Marie, pardonnez-moi.
Non, je sais.
Ni le seul téléspectateur, il y a d'autres gens.
Je sais, non, mais bon, ma foi, je pense que je suis quand même quelqu'un qui écoute beaucoup la radio, la télévision et qui lit beaucoup les journaux. Ma fonction politique m'oblige à essayer d'être bien informé.
Bon, alors il y a des accusations qui vous sont faites aussi de vos pairs politiques. On entendait il y a 10 minutes Christophe Darbollet qui disait, mais pourquoi Jean-François Rime, pourquoi l'USAM va au combat contre la révision de la partielle de la LRTV alors que son mandat serait plutôt de s'attaquer à l'impôt sur les successions. On vous entend beaucoup sur la LRTV, pas sur l'impôt sur les successions.
Pas du tout, on le fait aussi.
Oui, beaucoup moins, disait Christophe Darbollet. Il y en a d'autres qui... Pourquoi vous attelez à ce sujet-là et pas à l'autre?
Parce qu'on est seul sur le sujet de la radio TV. Économie Suisse, la direction d'Économie Suisse avait proposé de soutenir le référendum.
Elle ne le fait pas.
Et oui, pourquoi, vous savez? Parce que vous avez le président
de Swisscom
qui a réussi à convaincre une majorité de gens. Sujet, je suis invité au comité d'Économie Suisse, je connais un petit peu la question, mais heureusement j'étais pas là lors de ce comité. Le président, M. Losli, a réussi à convaincre une petite majorité, sauf erreur à une voix de majorité,
oui, qu'il fallait
pas s'intéresser à ce sujet. Oui, mais on l'a pas présenté au grand comité, ce sujet. Et il y a personne qui s'est intéressé vraiment à cette affaire, parce que bien sûr que si vous êtes président de Novartis, que Novartis paye 50 ou 40 000 ou 100 000 pour la radio-TV, ce qui les intéresse, c'est peut-être leur salaire et leur bonus en fin d'année.
Oui, mais quand même, l'impôt sur les successions, j'y reviens, Jean-René Germanier disait la même chose que Christophe Darbollet, pour les milieux économiques que vous représentez, et qu'ils représentent eux aussi, pour M. Germanier en tout cas, c'est beaucoup plus important, cet objet de la gauche, l'impôt sur les successions. Là, on a l'impression que vous menez un combat un peu idéologique, oui, pour reprendre les termes de Doris Leuthard avant-hier, contre la LRTV, mais partant contre aussi ce qu'est la SSR aujourd'hui, et que l'impôt sur les successions, bah, vous le laissez un peu de côté.
Pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas nous qui sommes leaders. Vous savez très bien que lorsqu'on fait ces campagnes, on se répartit les sujets, comme les partis politiques se répartissent les sujets. Alors c'est le PDC qui est responsable de la campagne sur les successions, et on va se battre sur les successions. Vous ne lisez pas nos journaux, vous ne lisez pas notre documentation, on est très engagé sur ce sujet, mais on peut pas mettre quatre romans et une conférence de presse. Alors il y avait M. Darbollet qui devait y aller, qui oui. est allé. Darbollet, lui, essaye de défendre sa conseillère fédérale. Moi, je veux quand même vous dire une chose. Sa conseillère fédérale, elle m'a répondu à une question que je lui posais en plein homme, que de toute façon j'étais un homme riche et puis que pour moi ça changeait rien de payer cette taxe radio-TV.
Alors je vous ai pas fait ce procès-là, moi.
Non, mais non, vous m'avez pas fait ce procès-là, je vous parle de Mme Leuthard.
Oui, oui.
Et Mme Leuthard est très sensible là-dessus. Moi, je prétends et j'affirme que Mme Leuthard a réglé ce dossier de façon sur une base politique, politicienne, sans réfléchir aux conséquences et sans vraiment réfléchir aux autres solutions avant d'avoir de l'argent.
Alors voilà, pour la LRTV provisoirement, on vote le 14 juin. Autre sujet qui vous concerne directement, Jean-François Rime, vous serez auditionné demain par le bureau du Conseil national pour avoir déclaré, c'est une affaire dont on avait déjà parlé sur cette antenne, pour avoir déclaré à l'époque dans un magazine, en l'occurrence PME Magazine, c'était avant Noël, que vous livriez à votre entreprise des informations glanées en commission de l'économie. Il s'agit dans un premier temps d'établir les faits pour l'instant. Est-ce que franchement, cette affaire-là, ces déclarations que vous avez faites à ce magazine quelques mois après, vous leur referiez? Est-ce que c'était pas une erreur de communication?
Non, c'était clairement une erreur de communication, mais vous savez, on est soumis à une très forte pression des médias. Alors, comme parlementaire, quand même, avec des positions assez marquées, comme président de l'USAM et comme chef d'entreprise, tout à coup, j'ai corrigé 2-3 détails dans cet article, et ça m'est passé à côté. J'irai m'expliquer, je ne vais pas vous donner tous les détails maintenant, je dois réserver la priorité de mes informations au bureau du Parlement qui va m'entendre. Et je crois que, en l'occurrence, ceux qui m'ont fait ce procès d'intention sont pas forcément très très bien informés. On en a peut-être fait une affaire politique, mais enfin, que j'ai fait une erreur, je l'accepte, comme ma collègue Christin Marc-Walder connaît qu'elle a fait une erreur dans l'affaire avec le Kazakhstan.
On y va, vous me tendez la perche, Jean-François Rime, on y vient à cette affaire Christin Marc-Walder, largement commentée ce matin, notamment dans la presse alémanique. Patrick Chaboudet.
Ben oui, la conseillère nationale PLR instrumentalisée à son insu, dit-elle, par un lobbyiste au service du Kazakhstan. Voilà un cas rédhibitoire de lobbying pour le Blick qui titre « Les pays PR, les relations publiques, régissent le Parlement. J'ai été trop crédule, admet Christa Marc Valder. Pour Le Quotidien, en tout cas, elle a perdu sa crédibilité politique et n'est pas en mesure d'assumer la présidence du Conseil national l'année prochaine. Pour la NZZ, c'est un signe que les politiciens de milice doivent agir plus professionnellement. Ce cas d'instrumentalisation est loin d'être unique, constate Le Quotidien, et c'est d'autant plus nécessaire d'avoir davantage de transparence sur les agissements des lobbyistes à Berne.
Alors, il y a votre cas, et vous avez dit, j'ai fait une erreur, vous le reconnaissez très honnêtement. Il y a le cas de Mme Marc Valder. Est-ce que tout ça ne décrédibilise, j'y arriverai pas, au fond, le travail de parlementaire? D'ailleurs, l'UDC dénonce ça très souvent. L'UDC dénonce souvent la classe politique et ses accointances. Est-ce que votre cas, que vous reconnaissez, le cas de Mme Marc Valder, ne décrédibilise pas toute cette classe politique? Est-ce que là, il n'y a pas un peu du côté de l'arroseur arrosé, au fond?
Bien sûr. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez un parlement professionnel?
Moi, je veux rien. Je vous pose juste la question.
Non, mais
certains veulent un parlement professionnel,
la
effectivement.
La vie parlementaire est devenue de plus en plus difficile. Mon père était parlementaire il y a plus de 30 ans, et la pression des médias n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui.
Alors, oui, mais vous êtes bien mieux armés aussi, les parlementaires face aux médias. Vous êtes bien mieux armés.
Mais non, mais je ne fais pas le procès des médias. On a besoin des médias, les médias ont besoin de nous. Et que de temps en temps, il y ait une erreur de communication. Moi, je n'ai pas de chargé de communication, je n'ai personne. Ouais. J'imagine que vos confrères et consoeurs, si je leur disais, écoutez, revenez chez moi dans 5 heures, d'ici là, j'aurais pris conseil auprès de mon chargé de communication, mais ce serait pas beaucoup mieux. Moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions. En l'occurrence, bon, il n'y a pas eu de conséquences. Il y a 12 ans que je fais partie de la commission de l'économie des redevances, qui a traité des dossiers sensibles, notamment ceux de l'UBS et tous les autres. Mais c'est la première fois qu'on me fait un reproche qui est justifié, je l'admets, mais j'estime que c'est pas une affaire qui est grave, mais
absolument.
Je m'en explique volontiers.
C'est pas une affaire nationale. Vous parlez d'erreur de communication, c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même une erreur de fait. Vous communiquez des informations avec votre entreprise, et Madame Marc Valder, bon, a des accointances là avec une entreprise de com payée par le Kazakhstan. C'est pas que des questions de communication. On n'est pas qu'en superficie là.
Je veux pas parler du cas de Marc Valder que je connais pas. Je connais que ce que j'ai lu dans les journaux, mais en ce qui me concerne, c'est clair que moi j'ai 3 fils qui sont dans mes affaires, et à la maison autour de la table on parle de politique, en l'occurrence la politique les intéresse, comme moi je parlais de politique avec mon père à l'époque, et j'imagine que je suis pas le seul à le faire. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec des collègues d'autres partis qui reconnaissent que ce genre de problème peut survenir à tous les niveaux.
Oui, voilà, les barrières sont pas forcément étanches, y compris dans le cercle familial. Bon, interview dans la Neue Luzerner Zeitung de Franz Steinegger, l'ancien président du PLR, Patrick Chaboudet.
Et il est plutôt rassuré sur les perspectives du PLR. Le creux est derrière nous, dit-il. Le parti devrait amorcer une remontée cet automne, notamment parce que les partis polarisants ont clairement exagéré, selon lui. Avec son initiative sur l'immigration massive, l'UDC menace les bilatérales, et de l'autre côté, le PS fait trop d'activisme sur le tournant énergétique. Du coup, le PLR au milieu est raisonnable et digne de confiance. Franz Steinegger, pas convaincu du tout par l'alliance économique passée récemment entre l'UDC, le PDC et le PLR. Il estime même ce pacte dangereux.
Oui, cette alliance économique a un peu volé en éclats. Alliance bourgeoise orchestrée par l'UDC pour exiger des économies, 3 milliards. Le PDC qui a décidé de ne pas suivre ses nouveaux alliés. Bon, c'est un pacte dangereux, Jean-François Rime?
Non, parce que, bon, c'est clair que on a des programmes qui sont différents, autrement on aurait un seul parti. Mais la gauche fait très bien ses alliances. Aux dernières élections, il y a 4 ans, ils ont gagné 7 ou 8 sièges qui étaient sur le ballon. Et nous, on n'est pas capable de le faire. Alors, bon, on a quand même réussi à économiser 5 ou 600 millions hier avec ce programme. C'est quand même déjà quelque chose. Maintenant, le Conseil des États va devoir se prononcer. Moi, j'estime qu'on est quand même d'accord avec le PLR, en tout cas sur 80% des sujets.
Et avec le PDC?
Et avec le PDC, ça dépend, parce qu'au PDC, bien sûr, vous avez un spectre qui va d'extrême gauche à la droite, si vous prenez monsieur Pfister, donc c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, on verra qui va gagner. D'après les pronostics, le PDC devrait quand même se retrouver dans les perdants des prochaines élections, et peut-être que ça les rend un petit peu nerveux.
Oui, ça c'est un peu de schadenfreude là dans vos propos.
Pas du tout. Mais moi, bien sûr, comme venant d'une famille radicale, j'estime toujours que le deuxième meilleur parti du pays, c'est quand même très loin le PLR.
On va à l'Union européenne maintenant avec vous, Georges Pope, qui remet jamais les pendules à l'heure, un titre lu dans La Liberté et dans Le Courrier.
Deux quotidiens qui indiquent que l'ambassadeur suisse Balzaretti participe aujourd'hui à une audition publique au Parlement européen. Il sera entendu par les membres de la Commission du marché intérieur du Parlement, qui s'apprête à adopter un projet de résolution sur les obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur, dressé notamment par la Suisse. Ce projet de rapport, rédigé par l'eurodéputé démocrate chrétien allemand Andreas Schwab, qui est sévère à l'égard de la Suisse. Il note qu'à défaut de trouver un compromis sur un accord cadre institutionnel qui peu ou prou soumettra la Suisse à l'autorité de ses juges étrangers qu'elle honnit, eh bien aucun accord ne sera conclu avec la Suisse sur sa participation au marché intérieur, y compris l'accord sur l'électricité. L'adoption de l'initiative contre l'immigration de masse ne passe non plus pas. Le Parlement européen soutient entièrement le rejet par l'Union de la demande de renégociation sur l'accord de libre circulation.
Est-ce que du côté de l'UDC, vous ne vous sentez pas un peu responsable de cette situation, Jean-François Rive?
Écoutez, moi j'aimerais bien que l'UDC fasse 50,5% des suffrages aux prochaines élections, mais je pense que malheureusement ça ne sera pas le cas. Et donc il n'y a pas que des UDC qui ont voté oui à cette initiative.
Vous étiez les fers de lance pour le coup, là.
Il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi les gens ont voté cette initiative. On verra aussi ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne avec les élections. Et ça se pourrait peut-être que le problème d'immigration se pose aussi dans d'autres pays. J'entendais encore ce matin sur une excellente radio, la vôtre, qu'il y a des sondages qui font ressortir qu'il y aurait 62%, mais je ne sais plus dans quel pays de l'Union européenne, c'est dans l'Union européenne, des gens qui pense que l'immigration est un très gros problème. On n'ose d'ailleurs pas faire voter les gens sur ce sujet dans l'Union européenne.
Oui. Bon, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question de la responsabilité de l'UDC ou pas dans cette situation.
On est responsable des initiatives qu'on a lancées. Oui. Maintenant, si on fait 50,5% des suffrages, ça veut dire que cette initiative est un vrai problème pour une majorité de la population suisse.
Et pour Bruxelles. Dernier sujet un peu plus léger, quoique la Cuchôle fribourgeoise sur le chemin de l'AOP. C'est un sujet de la Gruyère.
Oui, sur mesure pour notre invité qui est donc le journal nous apprend que ce pur produit de la gastronomie locale devrait obtenir une appellation d'origine contrôlée. Un cahier des charges digne des meilleurs horlogers a été établi. Elle vient d'être approuvée par l'association des artisans boulangers, pâtissiers, confiseurs de Fribourg. Alors le processus en cours devrait permettre de garder des emplois, peut-être même d'en créer. La vraie recette de la Cuchôle fribourgeoise comprend 12 produits, froment, lait, beurre, œufs, qui devront obligatoirement venir de Fribourg. La vraie Cuchôle doit peser 1 kg maximum, être ronde, légèrement aplatie, présenter une porosité régulière, souple, fondante et offrir des arômes de sucre et de safran.
L'AOP est méritée, Jean-François Rime.
L'AOP est méritée, mais ce qui me réjouit surtout, c'est qu'hier, je faisais partie de ceux qui ont refusé le cassis de Dijon, et je vois qu'on a des produits fantastiques chez nous et qu'il faut surtout se concentrer à mettre en valeur nos produits plutôt que d'aller chercher des produits bas de gamme et bon marché n'importe où dans le monde.
Et vous voyez que de la Cuchôle, on revient vers l'Union Européenne. Merci beaucoup Jean-François Rime.
Merci, bonne journée.
Mais c'était un peu le but et la perche tendue. Merci d'avoir été notre invité à Berne. On vote le 14 juin sur la LRTV révisée.